Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio 98 FM. C'est l'émission Femmes en Lumière qui commence, Myriam avec vous. Une émission qui vous présente des femmes de tous horizons et des personnalités atypiques, toutes plus inspirantes les unes que les autres. Via un témoignage à cœur ouvert, ces femmes de notre région et d'ailleurs vous partagent ici leur histoire. Aujourd'hui, dans l'émission Femmes en Lumière, j'ai l'immense honneur d'accueillir une femme d'exception. Après s'être formée, entre autres, à l'École nationale des officiers de police en criminologie, criminalistique et en droit des sciences criminelles, elle exerce une grande partie de sa carrière dans la police. Investigation terrain, commandement de brigade. Elle finit par intégrer le RAID, unité d'élite de la police nationale, où elle évoluera pendant 13 ans en tant que négociatrice. Forcenée, prise d'otages, enlèvement, affaires terroristes, elle n'a qu'un but, sauver des vies par la parole. Ses qualités d'adaptation, d'écoute et ses qualités humaines exceptionnelles la conduisent à accompagner de futurs négociateurs, des ambassades, de grands groupes et autres administrations publiques en France et partout dans le monde. Elle est intervenue à l'ONU, au FBI et son engagement lui a même valu d'être décorée chevalier de l'Ordre National du Mérite en 2019. Mais ça, par humilité, elle ne nous le dira pas. C'était donc bien sûr plus qu'une évidence d'accueillir Tatiana Briand dans l'émission « Femmes en Lumière » aujourd'hui. Bonjour Tatiana.
Bonjour Myriam.
C'est un vrai privilège Tatiana de te recevoir aujourd'hui. Alors, si tu devais te présenter en quelques mots, qu'est-ce que tu nous dirais ?
Alors, en quelques mots, je dirais que...
Ça c'est un challenge.
J'ai la chance d'avoir exercé un métier absolument passionnant. Donc je suis actuellement en disponibilité du ministère de l'Intérieur. J'ai effectué 18 ans en police nationale, dont 13 en groupe d'intervention, pour effectuer, comme tu l'as dit, le métier de négociatrice de crise criminelle. Et j'ai fait un métier absolument passionnant qui m'a amené effectivement à sauver des vies. Et aujourd'hui, je suis en pleine reconversion. J'ai monté ma formation, enfin ma structure de formation et de conseil pour accompagner les entreprises publiques, privées ou les administrations, les ONG aussi, sur de la négociation complexe.
D'accord, donc négociation complexe, donc de crise aussi. Est-ce qu'il y a un parallèle qu'on peut faire entre ce que tu as pu vivre, où là il s'agit vraiment de sauver des vies, où il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de stress, d'angoisse, j'imagine.
Oui, il y a un parallèle possible parce que la négociation, de manière générale, c'est quand même quelque chose de relativement complexe. Alors évidemment, c'est les enjeux professionnels qui évoluent, qui changent. Ce que j'ai fait, moi, au sein du ministère de l'Intérieur et pour le Quai d'Orsay, c'était évidemment toujours sur de l'environnement ou des risques vitaux. Mais pour autant, ce que l'on a mis en place, les techniques que l'on a utilisées, la posture que l'on a prise pour mener ces négociations, sont les mêmes que l'on peut utiliser sur différents types de négociations parce que il y a une manière de prévoir, de préparer, d'anticiper, de conduire, de clôturer des négociations qui, indépendamment des enjeux, vont à peu près se mettre en place de la même manière. Donc, c'est tout à fait transposable.
Oui, on retrouve des similitudes. Mmh. Alors, tu as donc fait ce choix, Tatiana, d'intégrer cette unité d'élite particulière qui est le RAID, comme on le disait. Comment est né ce choix ?
Alors ce choix, j'étais en maîtrise. Alors moi j'ai fait 5 ans de droit pour être avocate et arrivée en maîtrise de droit, en fait je vais faire la découverte d'un article qui évoque la prise d'otage de la maternelle de Neuilly, HB, Human Bomb, et là ça va être une révélation. C'est-à-dire que je vais prendre en compte un environnement policier, je vais découvrir le monde de l'intervention hein, qui m'est totalement étranger. Mmh. Et puis je vais comprendre en fait que dans des unités telles que le RAID, on a cette capacité de mettre en avant la négociation pour obtenir une solution pacifiée sur des situations de crise particulièrement dégradées. Donc je trouve que ça a énormément de sens et ça va vraiment faire écho. Et donc là je décide de ne pas passer l'avocature mais de passer le concours d'entrée des officiers de la police nationale dans la ferme intention d'intégrer cette unité d'intervention.
D'accord. Et est-ce que tu peux nous raconter justement comment s'est passée cette prise de contact, les tests. Alors moi, qu'est-ce qu'on t'a dit parce que
C'est quand même voilà un univers particulier, très masculin.
Oui, complètement. Alors à l'époque, moi, quand je prends cette décision, donc je suis en maîtrise, je vais quand même faire ma cinquième année de droit. Et il faut savoir qu'il va se passer 7 ans entre le moment où je prends cette décision et le moment où je vais intégrer l'unité, parce qu'il y a plein de petites subtilités qui m'échappent, à savoir que dès lors que l'on veut postuler pour le RAID, il faut avoir 5 ans de service actif. D'accord. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas anticipé, c'est-à-dire que en plus d'avoir le concours d'officier, il faut que je fasse 5 ans de police avant de prétendre passer au test, si tant est qu'il y ait des tests. Donc c'était vraiment beaucoup beaucoup d'inconnus. Le fait est que je vais intégrer en sortie d'école un commissariat assez classique en fait, où je vais commencer à exercer le métier d'officier. Et puis 3 ans et demi après mon intégration, le télégramme du RAID va tomber pour justement rechercher des négociateurs. Donc là, je vais candidater, sauf que l'administration va me dire que je n'ai que 3 ans et demi de service, donc je ne peux pas candidater, et donc va renvoyer mon dossier en disant « vous ne pouvez pas postuler pour les tests du RAID ». Et là, je le dis assez souvent, mais je vais faire mon premier acte de négociation, c'est-à-dire que je réalise que lutter contre l'administration, enfin c'est vraiment le pot de fer contre le pot de terre, c'est factuel. Administrativement, je suis pas dans les clous, donc ça sert à rien d'aller se battre sur ce chemin-là. Et donc je décide d'écrire une lettre de candidature au chef du RAID, dans lequel je vais exprimer ma volonté, mes souhaits, mon désir de passer les tests du RAID. Et là, c'est la cellule de formation qui va m'appeler en me disant effectivement, vous n'avez pas les conditions. Les conditions requises pour passer les tests, ce qui est pas trop un sujet pour nous. De toute façon, on prendra pas de femmes. Donc venez passer les tests, ça va nous distraire.
Ah d'accord, ok. Ouais. Ça va nous distraire. Exactement. C'est intéressant comme remarque, ouais. D'accord.
Et alors évidemment, je l'entends, mais je retiens surtout venez passer les tests. Passer,
bah oui, c'est ça.
Et pour la petite histoire, il y aura une trentaine de candidats quand même malgré tout hein, sur ce test-là en 2003 et 7 postulantes. Donc évidemment c'est discriminatoire, on ne peut pas ne pas autoriser les femmes à passer les tests. Donc là juridiquement c'est juste pas possible. Et donc je vais passer ces tests-là pendant une semaine et à l'occasion desquels il me sera régulièrement précisé qu'on prendra pas de femmes.
Oh là là.
Et pour autant je vais quand même aller jusqu'au bout. Et le fait est que à l'issue de ces tests-là je ne serai pas retenue. 30 candidats, un poste, sur le coup, je me dis, et quelqu'un a été meilleur que moi, ce qui s'entend largement. Je vais repartir dans mon commissariat un peu déçu, et puis surtout en me disant, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, parce que je suis rentrée dans la police pour être au RAID. Ça aussi, c'était un pari un peu risqué. Et puis 6 mois après, je vais être rappelée. Et on va me demander de retourner au RAID pour passer un test psy complémentaire. Donc là, c'est pareil, je vais pas me poser trop de questions. Je vais aller passer ce test-là, qui va durer 1h45, à l'issue duquel je vais être intégrée du jour au lendemain au sein de l'unité. Donc c'est-à-dire que mon chef de service va recevoir un appel en disant, Tatiana Briand est intégrée au sein de l'unité du RAID, elle commence demain.
C'est elle qu'on veut.
Donc, pour la petite histoire, dès lors que je vais intégrer le service et que je vais avoir accès à mon dossier administratif, je vais m'apercevoir que 6 mois auparavant, j'étais première sur les tests, mais conforme à leur volonté de pas prendre de femmes, ils ont pris le deuxième de liste, qui, au bout de 6 mois, a décidé de ne pas intégrer la cellule négo.
De pas rester. Ouais. Ouais. Incroyable quand même. Alors ça, je trouve ça complètement incroyable. Donc bien sûr qu'il y a du concours de circonstances, mais voilà, ce télégramme qui arrive pile, une opportunité qui se déclenche. Mais il faut toi que t'aies l'audace d'aller contourner le système entre guillemets. Ouais. Je sais bien qu'il faut 5 ans, 5 ans d'état de service. Je les ai pas. J'y vais quand même. J'écris une petite lettre. Elle devait être probablement bien tournée pour qu'elle retienne l'attention. Elle a fait son effet. Donc déjà première démarche, d'audace. Et puis ensuite, découvrir que t'avais fini première quoi. Mmh. Et t'intègres. Déjà rien que ça. Tu vois rien que pour ça, je trouve que ça force l'admiration et c'est important d'entendre ça. Tu vois, je trouve que c'est ce truc de écoutons notre
ne rien s'interdire.
Alors ça c'est la super devise, ouais. Ta super devise, on va en parler. Et alors du coup, quelles sont les implications quand même de ce choix quand on est une femme, une épouse, une maman, parce que tu as des enfants. Quelle organisation particulière est-ce que ça demande, en tout cas en termes d'état d'esprit, parce que voilà, on a beau dire, les clichés ont la vie dure, les mentalités sont ancrées dans plein de croyances. Comment
Avec... Alors c'était moi j'étais pas maman pendant 7 ans pendant lesquels j'ai exercé mon métier sans vraiment poser de questions. Et quand j'ai eu mon premier enfant, j'étais intimement convaincue que ça n'allait rien changer, que j'étais opérationnelle et que ça ne changerait pas. Jusqu'à ce que je la mette au monde et que là je me dise, ah si, il y a peut-être des petites choses qui vont quand même changer. Et alors c'était pas tant sur la notion de risque, pas du tout. C'est marrant, ça c'est pas quelque chose qui s'est invité à moi. C'était plutôt sur le fait de partir et de la laisser, par exemple. Ça c'était plus compliqué pour moi, et c'est ce qui m'a fait beaucoup culpabiliser en réalité.
D'accord. Parce que comme toutes les mamans finalement.
Oui parce que alors c'était pas tant sur les missions du quotidien, c'était plutôt sur les missions parce qu'une partie de notre activité aussi se fait avec le Quai d'Orsay, où on part sur des enlèvements de Français à l'étranger. Et souvent on a une date d'aller, on n'a pas de date de retour, et là c'était compliqué pour moi de savoir quand est-ce que j'allais pas revenir. Ça c'était plus douloureux, et ça m'a fait pas mal culpabiliser. Jusqu'à ce que ma mère, notamment, me dise « Tu as fait le choix d'un métier très opérationnel qui t'épanouit au quotidien, mais tu as fait aussi le choix de la maternité. Personne te demande de choisir entre les deux, donc tu dois t'organiser pour avoir justement une organisation qui te permette de t'épanouir dans les deux rôles. » Et ça m'a libérée. Et à partir de là, j'ai mis une organisation bien solide, c'est-à-dire qu'il fallait que j'ai une base arrière, très solide, qui puisse assurer le quotidien à ma place.
C'est
ce que j'ai fait, et ça n'a plus été un sujet.
Extraordinaire ta maman là aussi pour le coup, hein, ce mot, t'as pas besoin de choisir entre les deux, tu peux tout faire.
Exactement,
tu peux tout faire. C'était, ma fille, on aimerait tellement pouvoir entendre ça de la bouche de toutes les mamans et de tous les papas. Et alors justement, alors il y a quelque chose moi qui m'a interpellée, alors beaucoup de choses qui m'ont interpellée dans ton livre, la voie du rêve, négocier pour sauver des vies. Tu racontes un épisode ou un retour de mission où tu passes justement une semaine à l'autre bout du monde, je crois que c'est sur une prise d'otage, et en fait quand tu rentres, tu craques parce que tu trouves que le frigo est vide, il n'y a plus de papier toilette, et là on rigole parce qu'on se dit non mais elle vit des situations complètement dingues, où nerveusement faut être tellement accroché, et c'est il n'y a plus rien dans le frigo, il n'y a plus de PQ, et là je m'effondre quoi. Comment justement on gère cette tension nerveuse?
Justement,
c'est quoi les soupapes?
On la gère parce que on travaille avec des collègues qui sont qui font le même métier que nous, donc on fait des pauses, on se parle, on débriefe énormément, on est très sur la tradition orale, donc on se livre, on a pas peur de dire les choses que l'on ressent, etc. On va travailler sur ce qu'on appelle les techniques d'optimisation du potentiel, on va faire beaucoup de sport, on a accès aussi à des entretiens avec des psys, c'est-à-dire que si on a besoin à un moment donné d'aller crever l'abcès, on a cette possibilité d'aller justement s'épancher auprès de psys qui sont formés pour accueillir ce type de propos, hein, qu'on peut pas forcément délivrer auprès de nos proches, parce que ça peut être parfois anxiogène. Donc on fait tout ça. Et puis mais après, j'ai envie de dire que le quotidien reprend le dessus. Sur l'exemple que tu viens de citer, je me rappelle précisément parce qu'en plus c'était mon anniversaire, donc je reviens le jour de mon anniversaire mes copines me disent mais c'est génial, tu vas nous raconter ce que t'as fait là-bas et en même temps on va prendre un verre pour ton anniversaire. Et là je rentre et effectivement, et d'ailleurs ce que va me dire ma meilleure amie à l'époque, elle me dit tu viens de partir une semaine à l'autre bout du monde, j'étais à Haïti, t'as délivré 2 otages et tu chiales parce que t'as pas de PQ chez toi. C'est exactement ce qu'elle m'a dit de cette manière-là. C'est là qu'on prend conscience en fait que les gens autour de nous pointent du doigt l'exceptionnalité du métier, alors que nous, on fait juste notre métier et qu'il nous semble assez ordinaire, finalement.
Et oui, c'est ça. Écoute, merci beaucoup, Tatiana. C'est le moment de faire une petite pause musicale. On se retrouve juste après pour la suite de l'émission. À tout de suite. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do.
nothing to kill or die for. No religion to. Imagine all the people living life in peace. Ooh, ooh. You may say I'm a dreamer, but I am not the only one. I hope someday you will join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. Brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. Ooh, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will live as one.
Nous sommes de retour sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière, l'émission qui met en avant des femmes inspirantes de notre territoire. Tatiana Briand, ex-négociatrice du RAID, consultante, experte et conférencière, est notre femme en lumière du jour. Alors Tatiana, pendant plus d'une décennie, tu as été la seule femme officier au sein du RAID. Avant toi, une seule femme depuis la création de l'unité en 1985. Et après toi, une seule femme. Au total, ça fait trois pour en près d'un demi-siècle, quoi, 40 ans. Qu'est-ce que ça t'évoque ?
Alors, officier, il y en a toujours pas. Ce qui est non. Donc voilà.
voilà.
Et en revanche, à la cellule négociation, aujourd'hui, il y a une belle parité parce qu'elles sont trois au sein de la cellule,
okay,
pour représenter la cellule négo. Donc, on a évolué un petit peu. Ce que ça m'évoque. J'ai connu moi un RAID avec beaucoup plus de femmes qu'aujourd'hui parce que les missions nécessitait en fait que l'on ait des femmes, et ces missions étant sorties du cadre de l'unité, bah, les femmes sont parties avec la fin des missions. Et ce que ça m'évoque, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, c'est probablement, je pense, une autocensure de la part des femmes elles-mêmes à postuler sur ce type de poste, ce qui est un peu dommage. Et il est vrai que sur la spécialité reine de l'unité, qui est quand même l'intervention, je pense que l'unité n'est pas encore mature pour accueillir des femmes en son sein, alors qu'elles pourraient largement trouver leur place.
Pourquoi elle n'est pas assez mature ?
Parce que ça reste des missions quand même assez particulières. Pour te donner un exemple, aujourd'hui l'équipement moyen d'un fonctionnaire du RAID, c'est une quarantaine de kilos entre les protections balistiques, l'armement.
Ça veut dire que physiquement,
ça peut être un sujet.
D'accord.
Voilà, c'est 40 kilos, c'est parfois sur plusieurs heures d'affilée. Tu en as des négos ou en tout cas des interventions qui ont duré 24-48 heures. Bon, ça veut dire que même si de temps en temps les collègues ont un peu se poser, malgré tout, ils ont cet équipement sur le dos, c'est une réalité. Donc il pourrait y avoir des contraintes physiques, mais on a des femmes qui peuvent largement absorber ces contraintes physiques.
Oui, puis toi toi aussi tu es une ex sportive,
tu
as fait beaucoup de sport. Donc enfin voilà, hein, on sait bien que
donc on sait que c'est largement possible, même si nous les négociateurs, évidemment, on n'est pas du tout équipés de la même manière que qu'un gars de l'intervention, parce que nos missions ne nécessitent pas un tel besoin d'armement. On est le dispositif non agressif de l'unité, donc voilà. Mais pour autant, oui, je pense que la première chose, c'est que les femmes boudent un peu ces postes-là, malheureusement.
D'accord. Alors justement, ça m'amène à te poser la question suivante. J'ai remarqué dans ton livre que le mot négociateur
était toujours employée au masculin,
c'est vrai,
même quand tu parles de toi.
Oui.
Alors pourquoi ce choix et quelle place a le langage, justement, selon toi, dans les représentations que l'on se fait des possibles accessibles en tant que femme?
Alors c'est très juste, j'ai toujours c'est le métier de négociateur de crise qui a été créé, et on était, alors comme tu l'as souligné, hein, très peu de femmes, et j'ai jamais eu le besoin ou l'envie, c'est vrai, de marquer en fait le côté féminin pour dire oui, il y a des négociateurs, mais il y a aussi des négociatrices. Et puis je pense que bien ou pas bien, je sais pas, mais cette connotation négociatrice, elle a, je la mettais beaucoup plus sur des métiers, par exemple, du commerce, ce qui est un peu particulier,
ouais,
mais rarement à la crise. Donc, le métier, c'était métier de négociateur, et j'ai conservé, en fait, sans avoir un besoin impérieux de féminiser le métier. J'étais négociateur de crise criminelle, c'est assez juste, ouais.
Ouais. Donc voilà, c'est intéressant, hein, de voir comment justement nos biais font que, ben voilà, donc pourquoi pas faire en sorte que négociatrice puisse être aussi associée à, ben voilà, des vraies situations de crise, d'enjeux au niveau élitiste, enfin de l'élite, enfin.
On en parle de plus en plus, hein, parce qu'aujourd'hui, même quand on assiste à des émissions, notamment qui mettent en lumière les négociateurs et les négociatrices de l'unité, on parle des jeunes femmes qui ont intégré la cellule de négociation en parlant des négociatrices.
Ouais. Ouais. Bon, voilà, donc ça commence un peu à voler, mais voilà, c'est vrai que ça m'a un peu interpellée. Mais j'imagine aussi que c'est ce qui a fait ta force, c'est de pas te poser de questions et de pas faire de pas te sentir toi différente. En vérité.
Oui, et puis j'ai mis aussi mon énergie là où ça me semblait important. C'est-à-dire que ne pas dire négociatrice, ça ne m'enlevait rien. Oui. Ça n'enlevait rien à ce que j'étais, à ce que je faisais, à la réalité de ma présence sur le terrain. Donc il y a des combats, encore une fois, qu'il faut pas mener. Et ça faisait partie de ces choses où que je pouvais, sur lesquelles je pouvais largement céder parce que c'était pas un sujet en réalité. Voilà, j'ai préféré de la même manière que quand je suis arrivée, je voulais pas de femme et que ça m'a été bien clairement exprimé. Néanmoins c'était factuel, donc je me suis dit je ne vais pas me battre sur des choses qui sur lesquelles j'ai pas de prise, je suis une femme.
Chaque chose, voilà, et puis chaque chose en son temps, enfin voilà, là c'est vrai. Exactement. Qu'aujourd'hui on commence à prendre conscience que par le langage les choses peuvent aussi évoluer, mais ça m'a fait réagir comme tu parlais de les jeunes femmes qui s'auto-censurent.
Oui.
Voilà, peut-être que c'est aussi une arme qu'on a à notre disposition. Et quelles sont les qualités nécessaires pour exercer ce métier?
Alors, ce métier, il requiert véritablement une capacité d'ouverture. Nous, on a exercé ce métier dans des situations dégradées plus, avec des interlocuteurs qui étaient en situation dite de crise criminelle, qui avaient fait des choses extrêmement graves, violentes, choquantes. Et pour autant, il nous appartient pas, à nous, à ce maillon de la chaîne, de juger. Donc, il fallait qu'on puisse stabiliser la situation, mettre en place un rapport de confiance et puis créer suffisamment de liens pour rentrer dans leur histoire et comprendre pourquoi est-ce qu'ils avaient fait pourquoi ils faisaient ce qu'ils étaient en train de faire. Ça voulait dire on ne juge pas, on est en ouverture, on accueille les propos comme ils arrivent, on est focalisé sur ce que l'on va entendre, donc on doit développer particulièrement notre écoute. Avoir de l'empathie, c'est un incontournable, c'est-à-dire que je dois avoir la capacité de comprendre ce qu'il ressent sans le ressentir moi-même, et ça c'est hyper important, c'est ce qui va me permettre de garder en fait justement une distanciation émotionnelle, et puis ce qui va me permettre de rester en objectivité, parce que je vais pas basculer dans des sentiments qui pourraient en fait me faire perdre cette fameuse objectivité, donc je vais pas moi-même me mettre en colère, ou voire je vais pas avoir de la compassion pour certains cas, et donc ça c'est hyper important pour justement continuer à être un guide, à poursuivre en fait le fil de nos objectifs, de réussir à faire changer la perception de nos interlocuteurs pour les aider à faire le pas de côté, leur permettant de réintroduire du choix pour les amener à la solution qu'on a nous idéalement choisie. Sauf que l'idée c'est de les amener à prendre position eux-mêmes et de prendre la solution qui leur convient. Et donc ça, forcément, ça nécessite certaines qualités d'empathie, d'écoute, de combativité, parce que ce sont des négociations qui peuvent être particulièrement longues, de savoir gérer ses émotions, son propre stress. Et puis, encore une fois, d'avoir cette capacité, alors pour nous, de poser notre casquette de policier, cette casquette qui est plutôt normative, hein, pour dire aujourd'hui, je suis pas dans le jugement, je suis plutôt dans l'écoute, dans la compréhension.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu dis qu'en fait, la négociation, finalement, c'est une manière de faire de la psychologie sans être psychologue,
ouais,
de faire de la police sans faire de la répression,
exactement,
et de sauver des vies sans être médecin, quoi.
Ouais, c'est exactement
ça. C'est assez, assez extraordinaire, je trouve. Et vraiment, cette notion d'empathie, quand tu dis qu'elle est clé, c'est vrai que ça pose question, parce que on peut, le réflexe humain primitif, c'est de juger, condamner le fauteur de troubles, si je peux m'exprimer comme ça, enfin, je sais pas trop comment le dire, mais voilà, un forcené, un preneur d'étage, hein. Et en fait, toi, non, toi, tu te dis, ok, moi, je suis pas là pour juger, donc c'est réussir à...
Et oui, le souci, c'est que dès lors que l'on juge, bah forcément, on va prendre parti pris.
Mais comment on fait? Alors, comment on fait pour garder cette distance-là? T'as quelqu'un qui vient peut-être potentiellement de tuer sa femme, et toi, tu dois...
Ben tout ça, c'est vraiment lié à l'enjeu de nos missions, en fait. C'est-à-dire que tu ne dois jamais perdre de vue la raison pour laquelle tu es là.
Oui.
Donc l'enjeu, c'est quoi notre job? Notre job, c'est de sauver des vies. Et pour ça, il faut faire quoi? Il faut mécaniquement comprendre ce qui s'est produit pour aider nos otages qui sont à l'intérieur, en permettant à nos auteurs, justement, de pouvoir faire ce pas de côté et de trouver une issue un peu moins funeste que celle qu'ils ont choisie initialement. Si moi, je suis là pour les juger, ça veut dire que j'y vais avec ma casquette normative. Ouais. Je les accuse de ce que je perçois et je leur donne aucune possibilité en fait de faire le pas de côté.
Non, mais moi c'est ça que je trouve voilà, que je trouve vraiment hyper fort et qui fait toute la différence entre l'influence et la manipulation.
Ouais, exactement.
L'influence, il faut vraiment être dans une démarche sincère, authentique,
exactement,
de vouloir que les deux parties gagnent en fait, que tout le monde gagne. Et ça c'est vraiment important quoi. Je trouve que c'est notre part humaine la plus belle en fait. Merci pour ça et pour ce témoignage, Tatiana. Alors justement, si tu, alors je sais que toi t'as une devise, hein, tu nous le disais, tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure, ne rien s'interdire, et surtout ne jamais s'interdire d'essayer. Alors toi, qu'est-ce que t'aimerais essayer que t'as encore jamais essayé?
Il y a bien quelque chose à laquelle je pense, mais je le réserve un peu pour moi, pour ma quatrième vie professionnelle. Voilà, bon, j'ai des passions dans la vie, j'en ai quelques-unes, dont une dont je me dis, cette passion-là, peut-être qu'un jour tu en feras ton métier, on sera très loin de la crise.
Ok, bon, ouais. Bon, pas de scoop pour le moment, mais on a hâte de suivre, de voir un petit peu ce que ça va donner. Alors, Tatiana, notre émission touche à sa fin. Pour la clôturer, on a deux rituels. Donc le premier, est-ce que tu pourrais partager ton livre coup de cœur, un livre fétiche, même si je sais que c'est toujours dur de n'en citer qu'un?
Alors, je sais pas si c'est un livre fétiche, non, coup de cœur. J'ai découvert, alors c'est du roman, hein, j'ai découvert une autrice, donc Virginie Grimaldi,
oui,
qui a ce don d'écrire de manière très légère, avec énormément d'humour, un peu de décalage, sur des sujets très actuels, très contemporains, très graves. Et le dernier, donc j'en ai lu plusieurs, le dernier que j'ai lu, c'est il est grand temps de rallumer les étoiles. Elle va traiter des sujets assez graves, hein, la séparation, des problèmes d'argent, comment on élève ses enfants quand on est seul, quand on a notamment une ado qui est un peu en perte de repère, etc. Et donc ce livre, en traitant des sujets très graves de manière très légère, m'a vraiment pas mal émue, et voilà, je l'ai trouvé hyper intéressant, très pertinent,
merci,
et drôle.
Ouais, merci beaucoup pour ce partage, Tatiana. Et pour finir, notre deuxième rituel, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à cette femme lumineuse que tu es?
Qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter? Alors, de continuer cette deuxième partie de carrière avec autant d'enthousiasme et de passion que l'a été la première.
Ben oui, ça, on voit bien que c'est ton super moteur. Donc c'est tout ce qu'on te souhaite, de rester passionné comme tu l'es et de continuer à inspirer autour de toi comme tu le fais. Merci infiniment, Tatiana, pour ce témoignage, vraiment. C'est un merveilleux cadeau pour nous toutes et tous d'entendre des voix comme la tienne. On te souhaite le meilleur pour la suite. Notre émission se termine. Un grand merci à nos auditeurs et auditrices de nous avoir accompagnés. Et on se retrouve sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière, mardi prochain, de 18h à 18h30 en compagnie d'une nouvelle femme inspirante. En attendant, vous pouvez retrouver l'interview d'aujourd'hui en podcast sur le site d'IDFMradio.fr et sur notre chaîne YouTube. Encore merci Tatiana.
Merci beaucoup Myriam.
À bientôt.
À la semaine prochaine.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Aujourd'hui je suis sans nouvelles, j'ai pas de message. On écoutait Aznavour ou Aretha Franklin. Mais bon tranquille, je commence à m'y faire, j'avance et je passe des caps. Ton regard vaut plus que toutes les caméras. Toujours dans mon cœur, mais t'es plus dans mes bras. Je m'ennuie, mais bon tranquille. J'aurais pu t'aimer, t'aimer comme ça. Mais j'ai du mal à aimer, aimer comme toi. Mais bon, y'a plus d'intérêt si je suis plus le seul à t'aimer. Même si je me dis que personne ne peut t'aimer comme moi. J'aurais pu t'aimer, t'aimer comme ça. Mais j'ai du mal à aimer, aimer comme toi. Mais bon, y'a plus d'intérêt si je suis plus le seul à t'aimer. Même si je me dis que personne ne peut t'aimer comme moi. Elle me disait tout va peiner, peiner. Pourquoi je l'ai laissé seul? Elle voulait m'apprendre à aimer. Mais moi je n'apprends que mes erreurs. Je passais la nuit à traîner et reste solo pendant des heures. Je te fais genre que tout va peiner, peiner. Mais bon, en vrai, j'ai le seul. J'ai le sentiment qu'elle m'évite. Au final, c'est tout ce que je mérite. 3h du mat dans la street, mode automatique, je fais des tours sur le périph. Y'a comme une ambiance électrique, c'est gravé dans ma génétique. 3h du mat dans la street, mode automatique, je fais des tours sur le périph.
Le samedi soir, autour les gens dehors ne font que me parler tort. J'ai du mal à croire que c'est la fin de l'histoire. Je m'enivre, mais bon tranquille. Au réveil, mon rôle est dans un sale état. Je réalise des choses qu'hier je ne voyais pas. Aujourd'hui j'ai le blues quand j'écoute Aretha Franklin, mais bon tranquille. Elle me disait tout va peiner, peiner. Pourquoi je l'ai laissé seul? Elle voulait m'apprendre à aimer. Mais moi je n'apprends que mes erreurs. Je passais la nuit à traîner. Solo pendant des heures. Je te fais genre que tout va peiner, peiner. Mais bon en vrai j'ai le seul. J'ai le sentiment qu'elle m'évite. Au final c'est tout ce que je mérite. 3h du mat dans la street, mode automatique, je fais des tours sur le périph. Y'a comme une ambiance électrique, c'est gravé dans ma génétique. 3h du mat dans la street, mode automatique, je fais des tours sur le périph.
Man. En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Recommence-moi. Tu es dans cette conquête du monde. Tu vas se rassurer, ça convient à moi. IDFM Radio, le média valdoisien.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Mira esa nena la que hablando, me gusta el costeito que le está dando. Conmigo ella es cabrón, peligrosa conmigo. Mira esa nena la que hablando, me gusta el costeito que le está dando. Conmigo ella es cabrón. La sensación.
salsa del bloque. Yo quiero con ella hasta que la micro choque. Tú tranquila, la cuenta baja en a tope. Pide lo que quiera, que es lo que quiero.
Quiero yo es ponértelo. Chiquitita como Milo. Se conecta como un pene, renta la lo. Conmigo ella se escapó, nena, dale, muerde todo. Prima, arriba.
Thank you for sunshine. Thank you for rain. Thank you for joy. Thank you for pain. It's a beautiful day. Yeah, 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 yeah. It's a beautiful day. Yeah. If I take the blame, put it all on me. I just pray that I won't end up lonely. This world will drive you real crazy and out of control. Make you wanna pull out and let them shots go. Have to just chill out. I don't wanna stop. Losing homies really hurt to my soul. No matter how rough that road, far you go, take it easy and live life slow. Through all the highs and lows, stay ten toes down like you're digging for gold. God, thank you for sunshine. Thank you for rain. Thank you for joy. Thank you for pain. It's a beautiful day. Yeah, 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 yeah. It's a beautiful day. Yeah. And thank you for this life. Sorry I complain. The ups and the downs is just a part of the game. It's a beautiful day, yeah, yeah, yeah. It's a beautiful day, yeah. Ride through the city, just reflecting on me. While they hitting, I'm just keeping it cool. Yeah. I ain't even tripping, long as money keep flipping and them sticking to me like glue. Before the bar jack, yeah. I couldn't hit that. I pulled the Akon, she let me smack that. Yeah, I was down bad, but then I bounced back. I took a wrong turn, turned up on the right track. No matter how rough that road, far you go, take it easy and live life slow. Through all the highs and lows, stay ten toes down like you're digging for gold. God, thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day, yeah, 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 yeah. Beautiful, it's a beautiful day, yeah, yeah.
En Île-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Always, I'm afraid of losing. I'm afraid of losing. I made you thinking I was so wrong. I made you feeling the worst. And I don't know how to get along with my seven on weekend. When I'm weekend, so let's go back to you. Solid as I'm waving, solid as I'm waving. So I became a liar. I've been underrated, overestimated. I made it really hard for you, hard for you to love me. But there's so many things we could do, and all we need is escaping. Escaping.